La peau de chagrin est un roman publié par Honoré de Balzac en 1831, qui tient à la fois du conte fantastique et de l'étude sociale et philosophique. Balzac y montre la désorientation de la société française au début de la monarchie de Juillet, la destruction de l'énergie vitale de personnages en perte de repères, sous l'influence d'une mystérieuse peau magique qui exauce les souhaits. Nous sommes ici à l'incipit du roman. Or, dès les premières pages, Balzac donne le ton. Tout en posant quelques thèmes centraux du roman, il mêle les genres et les styles, annonçant la fin d'un certain type de littérature, en même temps que la fin d'un temps. Vers la fin du mois d'octobre dernier, un jeune homme entra dans le palais royal au moment où les maisons de jeu s'ouvraient, conformément à la loi qui protège une passion essentiellement imposable. Sans trop hésiter, il monta l'escalier du tripot désigné sous le nom de numéro 36. « Monsieur, votre chapeau, s'il vous plaît !» lui cria d'une voix sèche et grondeuse un petit vieillard blême, accroupi dans l'ombre, protégé par une barricade, et qui se leva soudain en montrant une figure moulée sur un type ignoble. Quand vous entrez dans une maison de jeu, la loi commence par vous dépouiller de votre chapeau. Est-ce une parabole évangélique et providentielle? N'est-ce pas plutôt une manière de conclure un contrat infernal avec vous, en exigeant je ne sais quel gage? Serait-ce pour vous obliger à garder un maintien respectueux devant ceux qui vont gagner votre argent? Est-ce la police, tapie dans tous les égouts sociaux, qui tient à savoir le nom de votre chapelier ou le vôtre, si vous l'avez inscrit sur la coiffe? Est-ce enfin pour prendre la mesure de votre crâne et dresser une statistique instructive sur la capacité cérébrale des joueurs? Sur ce point, l'administration garde un silence complet. Mais, sachez-le bien, à peine avez-vous fait un pas vers le tapis vert, déjà votre chapeau ne vous appartient pas plus que vous ne vous appartenez à vous-même. Vous êtes au jeu, vous. Votre fortune, votre coiffe, votre canne et votre manteau. Dans les deux premiers paragraphes, Balzac propose au lecteur une œuvre complexe, insaisissable, puisqu'à la fois réaliste et fantastique, novatrice et satirique. Puis, il propose dans le dernier paragraphe un véritable jeu au lecteur. Il le plonge lui-même dans l'univers fictionnel décrit et mêle les tons, les références, les codes littéraires. Il s'agira donc de se demander en quoi Balzac annonce dans cet incipit une œuvre déconcertante, prenant acte de la destruction de l'ancienne littérature, pour mieux créer un nouveau rapport au lecteur. Nous entrons d'abord dans un incipit troublant, entre réaliste et fantastique, récit traditionnel et critique politique. La première phrase du roman nous plonge apparemment dans un univers profondément réaliste, le Paris de 1830. Le roman commence de façon assez traditionnelle en délivrant des informations spatio-temporelles, vers la fin du mois d'octobre dernier, au Palais Royal. Balzac semble également reprendre un héros traditionnel. Le héros principal est un jeune homme très peu caractérisé. Le jeune homme qui agit presque sans hésiter, signe de détermination, se rapproche bien du personnage type du roman d'apprentissage. Le groupe nominal commun permet d'entretenir le mystère et de susciter ainsi l'intérêt du lecteur. Mais quelques éléments novateurs et critiques s'insinuent dans cette description réaliste. D'abord, Balzac pousse le réalisme très loin, beaucoup plus loin que ne le font les romans de l'époque. D'abord par la précision de l'enracinement dans le Paris de l'époque. Le narrateur précise le numéro 36 du tripot, par exemple. Et surtout, par le rapprochement entre le temps des événements racontés, octobre 1830, et le temps de l'écriture, puisque le roman est publié en 31, il est probablement écrit en 1830 lui-même. Par ailleurs, Balzac suggère en même temps un certain rapport au lecteur. L'adjectif « dernier », le mois d'octobre « dernier », fonctionne comme un déictique. Il prend son sens par rapport à la situation d'énonciation du narrateur. Le narrateur suggère en même temps que son propre temps coïncide avec celui du lecteur, qu'ils ont un repère temporel commun. C'est bien sûr un leurre, lorsque nous lisons ce texte aujourd'hui, nous savons bien qu'octobre dernier renvoie à octobre 1830. Mais cette indication crée tout de même un rapprochement, une complicité avec le lecteur. On remarque aussi dans ces deux premières phrases un jeu stylistique. Le romancier juxtapose récit factuel, précis, dans la deuxième phrase par exemple, une formule juridique qui affecte un ton sérieux, conformément à la loi qui protège, et une remarque satirique. Tout en affectant d'adopter la phraséologie juridique, le narrateur exprime en effet une critique sévère contre le nouveau régime de la monarchie de Juillet, régime avide et immoral, à travers le groupe nominal, une passion essentiellement imposable. Le gouvernement autorise, voire encourage le jeu, le vice qui détruit pourtant les joueurs et les réduit à la misère, puisqu'il y trouve un intérêt financier en récupérant par l'impôt une partie des sommes jouées. Balzac ne dit rien de la révolution de juillet 1830 qui a mis fin à la Restauration. Pourtant, s'il ne le nomme jamais explicitement, cet événement hante le texte. Le choix du Palais Royal, par exemple, qui appartient historiquement à la Maison d'Orléans, qui succède au Bourbon sur le trône, est une allusion détournée au nouveau régime. Le choix de commencer ce roman dans ce lieu, et surtout dans une maison de jeu, un tripot, est hautement symbolique. Balzac associe immédiatement l'argent et la débauche au nouveau régime. En deux phrases, nous sommes donc plongés dans un univers réaliste d'une actualité brûlante par un narrateur ironique qui joue avec les références. Or, dans le paragraphe suivant, nous basculons presque dans le fantastique. Nous entendons résonner une voix sèche et grondeuse rapportée au discours direct. L'interrogation, l'apostrophe, le passé simple, l'adverbe soudain donnent au récit une vivacité qui réveille le lecteur et capte son attention. Nous avons alors un personnage inquiétant, presque inhumain, qui surgit face à nous, un petit vieillard blême. Les trois termes connotent la maladie, la mort, la disparition. Sa voix sèche et grondeuse semble minérale, inhumaine. Il est accroupi dans l'ombre. Il se tient donc davantage comme une bête plutôt que comme un homme. Le choix de l'ombre donne également au vieil homme une connotation démoniaque, maléfique. Or, son apparition dans la lumière est plus effrayante encore, puisque le narrateur évoque une figure moulée sur un type ignoble, faisant du visage de cet homme une figure horrible, contre nature. Mais là encore, alors que le roman flirte avec le fantastique, le petit vieillard pouvant être pris comme une incarnation du diable, il sera plus loin l'incarnation du jeu, l'allusion discrète à la barricade, qui le protège, peut être une référence implicite aux barricades de la Révolution. Le romancier semble donc se plaire à nous tenir sur une frontière instable. S'agit-il d'un roman historique, réaliste, politique, ou bien fantastique et totalement romanesque? Dans la dernière partie de ce texte, dans le paragraphe, le narrateur s'adresse directement au lecteur et propose une digression sur les maisons de jeu. Il interrompt donc son récit pour s'interroger sur la règle qui exige du joueur qu'il laisse son chapeau au vestiaire en entrant. Il interpelle constamment le lecteur à travers de multiples interrogations et l'emploi du pronom « vous » et des marques de deuxième personne. Quand vous entrez dans une maison de jeu, la loi commence par vous dépouiller de votre chapeau. Le présent donne à cette observation un caractère incontestable, universel. Le narrateur semble quitter le domaine de la fiction pour parler du monde réel, ou bien en tout cas, il brouille les frontières entre ces deux univers. Le narrateur s'interroge sur les causes de cette loi et propose cinq hypothèses. Les deux premières sont d'ordre moral et religieux, mais elles sont formulées dans deux sens opposés. Est-ce une parabole évangélique et providentielle? N'est-ce pas plutôt une manière de conclure un contrat infernal avec vous en exigeant je ne sais quel gage? La première question suppose que cette disposition a pour but d'inciter le joueur à la vertu, la parabole étant un récit, une image, destinée à délivrer un savoir moral. Ôter son chapeau pourrait indiquer au lecteur qu'il renonce en même temps à sa dignité, sa vertu. Le lexique religieux rappelle la littérature morale. Mais la deuxième question suggère que cette invitation serait plutôt immorale, il s'agirait d'un contrat infernal. Le chapeau serait un gage montrant que le joueur est prêt à vendre son âme au diable. Balzac réactive ainsi l'image du pacte fait avec le démon, à l'image de celui que fait Faust avec Méphistophélès, et de celui que Raphaël fera avec la peau. On tire ainsi le roman vers le fantastique. Mais la troisième hypothèse bascule plutôt vers une explication sociale et profondément cynique. Il s'agirait de marquer son respect envers ceux qui triompheront. L'emploi du futur proche dans la périphrase « ceux qui vont gagner votre argent » suggère que le jeu est bien un espace infernal, entièrement conçu pour appauvrir le joueur et dans lequel il n'y a aucune place pour le hasard, aucune possibilité de triomphe. La quatrième interrogation introduit encore un changement de ton et propose un autre possible romanesque. Est-ce la police tapie dans tous les égouts sociaux, etc. Balzac semble tirer son roman du côté des fameux romans à mystère, ancêtres du roman policier, qu'il a exploré dans ses premiers écrits. Mais le motif de la police, écumant les bas-fonds de la société et recherchant des indices, est anéanti par l'objet de la quête, le nom d'un chapelier. Le détail décrédibilise l'hypothèse. Enfin, la dernière question directe propose une autre direction, celle de l'enquête scientifique. Balzac fait une large place à la science dans La peau de chagrin. On retrouve bien ici un lexique rationnel et scientifique. Prendre la mesure, crâne, dresser une statistique, instructif, capacité cérébrale. Mais on sent encore l'ironie de cette dernière suggestion, assez absurde. Aucune de ces hypothèses est donc vraiment crédible, qu'elle soit invalidée par la naïveté moralisatrice, l'irrationnel, le cynisme, un détail ridicule ou l'ironie du narrateur. La neutralité de l'affirmation suivante, sur ce point, l'administration garde un silence complet, nous fait sentir que Balzac joue avec le lecteur. Il adopte ici un style administratif, comme il a adopté avant divers tons, diverses hypothèses, promenant le lecteur avec lui. Il suggère ainsi l'absence de réponse claire et nous annonce l'entrée dans un monde devenu confus, voire opaque. Mais il adopte aussi dans le roman des pratiques d'écriture davantage liées à l'écriture journalistique, interpellant constamment le lecteur. Enfin, notre passage se clôt sur une mise en garde inquiétante qui, de nouveau, côtoie le fantastique. La conjonction adversative « mais » et l'impératif adressé au lecteur « sachez-le bien » visent à renforcer son attention et son inquiétude. La locution « à peine » jointe à l'adverbe « déjà » donne l'impression d'un danger imminent. Cette fatalité qui s'abat sur le joueur dès lors qu'il s'est lancé dans le jeu est encore suggérée par un travail de sonorité à travers une allitération en « p » et en « v » qui suggère une mécanique immuable. « À peine avez-vous fait un pas vers le tapis vert ?» La multiplication des marques de deuxième personne et l'énumération « vous, votre fortune, votre quoi, votre canne et votre manteau » marquent le caractère inéluctable de cette aliénation. Le joueur perd tout, fortune, bien et contrôle de soi. Dès Linky Pit, nous sommes donc plongés dans une œuvre déconcertante qui rapproche audacieusement le monde fictif du monde réel par le cadre spatio-temporel, le ton sérieux ou les interpellations du lecteur. Des références implicites à l'actualité brûlante entrent en résonance avec des allusions fantastiques. Balzac brouille les frontières pour mieux plonger le lecteur dans l'enfer moderne de la monarchie de Juillet, règne de l'argent et de la débauche. Le lecteur entre dans le roman au moment où le héros entre dans la maison infernale du vice et que la société bascule dans une nouvelle ère politique.